Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dicker.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Academy et merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'histoire. Il y a plusieurs semaines, je recevais à ce micro le père Éric Iborra afin d'évoquer le rôle d'un certain abbé Ratzinger au Concile Vatican II. Il s'agissait du premier volet de trois émissions consacrées donc à cet événement qui, il y a 50 ans très exactement, bouleversa l'Église. Un événement qui, encore aujourd'hui, suscite les critiques, des commentaires, des interprétations et parfois même les passions. Alors, pour évoquer à nouveau ce concile, eh bien je suis heureux de recevoir Philippe Levidin. Philippe Levidin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'Église contemporaine. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la question. Je citerai notamment et surtout ce dictionnaire historique de la papauté que vous avez dirigé chez Fayard, un ouvrage de référence par excellence. Et vous êtes sur le point de publier un ouvrage précisément consacré au Concile Vatican II chez votre éditeur, donc les éditions Terrain. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous reçois ici dans ces locaux, je crois que c'est la troisième fois.
Oui, c'est très bien, c'est très sympathique, je suis toujours venu volontiers.
Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que vous êtes ici désormais chez vous, puisque vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques au mois de décembre 2011 sur le siège de Pierre Cholu. Vous êtes d'ailleurs le confrère d'un certain Benoît XVI, qui a été élu alors qu'il était le cardinal Ratzinger en 1992, si mes souvenirs sont bons. Donc, Benoît XVI, qui est également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, pour l'anecdote et pour l'humour, peut-on se permettre d'appeler un pape cher confrère?
Je crois que non. Je ne pense pas que le pape s'en formaliserait, parce que pour le peu que je l'ai vu, disons, pas vraiment tête à tête, pas forcément, sauf une fois, avec quand même quelqu'un qui est à côté de lui, le pape est un homme simple. Il parle un français admirable, donc il comprendrait très bien que l'audace est forte. De toute façon, c'est Joseph Cardinal Ratzinger qui était élu à l'Académie des sciences morales et politiques, ce n'est pas Benoît XVI. Mais comme il a toujours tenu ces disjonctions dans ses écrits entre le fait qu'il occupe la charge suprême et qu'il est aussi le théologien Joseph Cardinal Ratzinger, le père Ratzinger autrefois, il est resté là, je dirais, il n'y a pas raison de démissionner, puisque ce soit le cas n'est pas prévu. Il occupe d'ailleurs un fauteuil qui est réservé aux associés étrangers, il est allemand, et en tant que romain d'ailleurs il peut y rester puisqu'il est citoyen romain maintenant. Donc non, je me garderai bien de cette tentation qui est un peu, comment dirais-je, provocatrice. Ce n'est pas diabolique. Mais enfin, il sourirait sans doute, mais peut-être quand même qu'il serait étonné de voir que quelqu'un comme moi, bien que très attaché au Saint-Siège depuis toujours, je peux peut-être me permettre certaines choses. Enfin, on lui parle très gravement à Benoît XVI. En tout cas, qu'on vient sur nos ordres par lui.
L'intellectuel qu'il est, j'ai le souvenir d'un texte sur Benoît XVI, un des seuls papes intellectuels de l'histoire. Ça compte tout de même.
Oui, c'est pas un des seuls papes intellectuels de l'histoire, je sais pas de qui est ce texte, mais c'est une exagération. Je veux dire, ça met en dièse, je dirais, une capacité de s'attacher à exprimer les vérités de la foi et ses sources, qui n'appartient pas à tous les papes de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon très très intellectuelle, en sorte qu'ils utilisent beaucoup le langage. Ratzinger avant et Benoît XVI sont des hommes de l'herméneutique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à expliquer ce qui est explicable dans la transmission des textes, et surtout ceux qui sont repris par Vatican II, dans un langage qu'on peut dire plus moderne, c'est-à-dire qui tient à la fois la tradition et qui en même temps essaie de comprendre comment on peut appréhender ces textes pour les besoins d'une intelligence moderne, certainement, mais il n'est pas moins, il est différemment, mais il n'est pas moins que Paul VI, Pie XII était aussi un pape très intellectuel. On fait trop la distinction entre l'intellectuel, donc le théologien, et le pastoral. C'est vrai que Benoît XVI est un théologien, et ceci est une dimension que n'avaient pas les autres souverains pontifes. Aucun. Théon, c'était un grand savant, mais je veux dire qu'il n'était pas un théologien. Benoît XVI est un théologien, il a dit que la théologie, ce n'est pas parler sur Dieu, c'est parler de Dieu. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il parle en fonction de ce qu'il sent, en tant qu'exégète, du discours de Dieu et non pas du discours sur Dieu. Le discours sur Dieu est un discours historique, le discours de Dieu est celui qui est permanent dans les siècles des siècles, c'est-à-dire amen, mais presque, et c'est ça qui fait sa force. En même temps, c'est un homme qui a le sens culminant du concret. Par exemple, Jésus de Nazareth, tome 1, est étonnant, puisque on assiste à la réponse à toutes les questions qui sont posées par le Notre Père.
Alors, quittons Benoît XVI, et faisons un bond dans le temps sur ce concile. Je vais me répéter, vous allez publier prochainement un livre sur ce concile aux éditions Perrin, et nous nous reverrons à cette occasion. Mais j'ai souhaité réaliser cette émission pour que nous nous inscrivions moins dans l'interprétation du concile, davantage dans l'histoire du concile. Le concile est annoncé 3 mois à peine après l'élection de Jean XXIII en 1958. L'élection et l'arrivée de Jean XXIII au pouvoir suprême semblent donc indissociables du concile annoncé. Est-ce que le nouveau pontificat constitue une coupure dans l'histoire de l'Église et surtout une coupure après le long règne de Pie XII, un règne qui va durer 19 ans?
Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est le 25 janvier 1959 que, réuni à Saint-Paul-hors-les-Murs, Jean XXIII, devant les cardinaux médusés, muets, glacés, dit-on, annonce son projet, ce qui est important, de convoquer un concile dont il n'aime pas le nom, qui sera donc un nouveau concile, en même temps qu'il annonce, chose importante, qu'il efface un peu l'effet d'annonce, la convocation d'un synode romain et une révision du code de droit canonique de 1917. Donc, il y a 3 choses qui témoignent une volonté d'aborder l'Église sous un angle avec une caméra neuve. Je dirais de reprendre les formules du code de 1917, de réaliser un synode romain qui remette un peu la question de diocèse et d'urbanité au cœur du système, et le concile peut-être. Ce n'est qu'en août 1962 que le concile sera confirmé, après une phase anti-préparatoire qui dure 1 an et qui commence en juin 1959 par une lettre fameuse du cardinal secrétaire d'État, le cardinal Tardini, à tous ceux qui peuvent postuler, si j'ose dire, à devenir, à profiter, c'est très mal dit ce que j'ai dit, enfin, aux évêques, aux archevêques, aux métropolites, ou largement, c'est la convocation la plus large de la catholicité, et le monde chrétien qui est faite. Bon, alors c'est une phase préparatoire, qui fait que d'après les vœux qui sont émis par la consultation Tardini, 1 an après, sont élaborés 72 schémas, qui vont donner, je dirais, la première pâte à modeler, ou à pétrir, plutôt le premier pain à pétrir du concile. C'est un projet. Alors, pourquoi ce projet qui a été présenté avec insistance par Jean XXIII comme étant un projet inspiré, il s'est réfugié vers la Providence, il y a quelque chose d'extraordinaire, en 1959, un pape parle de Providence, c'est-à-dire qu'il aurait été littéralement visité par une force plus grande que la sienne. Je crois qu'il y a une explication plus humaine, que je donnerai d'ailleurs dans le livre qui sera publié par l'édition Perrin. Jean XXIII, le soir de son élection, est dans une immense solitude. Son neveu, a écrit un peu mille mémoires, mille histoires sur son oncle, raconte comment, au soir de l'élection, il est seul dans les appartements qui ne sait pas être les siens ou pas les siens, qui sont ceux du secrétaire d'État, le cardinal Malionné, qui est mort en 1944, que Pie XII n'a pas du tout remplacé, les appartements qui sortent un peu, comment dire, de Saint-Pêtre, pour ne pas dire qui sortent le moisi. Il a son fidèle secrétaire avec lui, et tout le monde s'est retiré, y compris ceux d'autres Vatican qui l'ont gardé. Il est là seul et il dit, dans cette solitude incroyable, je trouve, un homme qui a été acclamé après 14 tours de scrutin. Et adesso, che facciamo? Et maintenant, que faisons-nous? Et son secrétaire, dont on m'échappe pour l'instant, je vais essayer de revenir, lui dit, mais je vais vous chercher des rafraîchissements. Il ne sait même pas où il y a des rafraîchissements. Donc il erre dans cet appartement déserté depuis 14 ans. Il n'a pas été occupé, puisque Tardini et Montigny étaient tous des pro-secrétaires d'État, de Montigny jusqu'en 1953. Il erre. Jean XXIII a cette très belle phrase, il dit, mais disons les vêpres. Donc ils disent les vêpres, et ensuite ils cherchent une chambre pour Jean XXIII dans les appartements de palais apostolique, parce qu'il n'est pas question d'occuper la chambre de Pie XII. Donc cette immense solitude, je veux dire, est à prendre au deuxième degré, sur un homme comme Roncalli est capable d'assumer la solitude, un homme de prière. Bon, mais il connaît très peu les palais apostoliques, très peu le Vatican. Il est venu 2 ou 3 fois, mais sans plus, en audience. Il connaît Propagande Affilée, qui est place d'Espagne, mais il a toujours été à l'extérieur, délégué apostolique, non à Paris. Donc il n'y a pas la familiarité qu'avait forcément Tardini, qui n'est pas là ce soir-là. Et puis Pie XII avant, et Montigny déjà, etc. Donc je postule, une hypothèse, que dans cette solitude, le pape se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il sait qu'il est malade, qu'il a un cancer de l'estomac, qu'il est soigné, mais qu'il est incurable, il est lourd, il n'a pas une très bonne santé, il ne peut pas reprendre. Si vous voulez. Donc je crois que l'inspiration est aidée par ce sentiment qu'il va rester comme un pape immobile, qui aura attendu la mort pour passer le relais à quelqu'un d'autre. Et je pense que l'idée de remue-ménage sur le concile est un remue-ménage. Alors qu'on n'attendait rien, parce que, au fond, la crise de l'Église, comme on dit, crise de l'Église, en fait, depuis la naissance de l'Église, depuis l'Église de Saint-Pierre et Saint-Paul, n'est pas patente. Pie XII est mort dans relative indifférence, son agonie a été publiée dans les journaux, elle l'a rendu très pathétique, mais ce pontificat est immobile du même, aux yeux de certains réactionnaires, quoi qu'il y ait des aspects très neufs, du point de vue pastoral, donc c'est ce qu'il y a de Pie XII. L'affaire de la Shoah n'est pas encore montée, du vicaire du silence pas du tout, c'est avec 1764. Jean XXIII, au fond, n'a pas grand-chose à faire. Et l'idée, très, très, je dirais, très rusée, rusé avec l'histoire, c'est-à-dire que faire l'histoire en convoquant les autres évêques du monde entier à faire l'histoire avec lui. Mmh. Écrire le futur de l'histoire de l'Église collectivement, à défaut de pouvoir l'écrire individuellement.
Est-ce qu'on peut dire, mais vous avez répondu en partie à la question, que Jean XXIII pensait aussi au fait que le Concile Vatican I n'ait pas été terminé.
Oui, sans doute. Le Concile, c'est en tout cas incomplet sur un point important qui va être traité pendant Vatican II et sujet d'ailleurs à matière de discussion ultérieurement. Je ne parle pas pendant, c'est une empoignade, qui est la question de la collégialité. C'est le problème de ce qu'on appelle le primus inter pares, c'est-à-dire qu'est-ce que le pape est le premier parmi les égaux, mais qu'est-ce qu'est le premier parmi les égaux, qui touche non seulement la question de l'Église catholique, mais la relation avec les Anglicans, avec les orthodoxes, etc. Enfin, tout un pan d'histoire qui commence dès le chiffre avec l'Orient. Donc, 123, il ne faut jamais prêter trop aux riches, il ne faut jamais non plus faire du subjectivisme historiciste. Ce qui est certain, c'est que 123 n'a jamais demandé qu'on lui apporte des archives, s'il avait le droit d'obtenir, des projets de concile de Pie XI et de Pie XII. Pie XI s'en va à un concile en 1931, c'est au moment de la montée des fascistes, si l'on veut résumer, et Pie XII en 1950. Et Pie XII recule devant l'ampleur de la tâche, parce qu'il voit bien que la catholicité est immense, que tout de même il faudra bien convoquer, outre les évêques européens, les évêques des autres pays, il n'y a pas beaucoup à l'époque, mais enfin, etc., et il recule. Et il publie l'Annus Generis, qui finalement est identico-concile, c'est-à-dire sa condamnation de toutes les avancées dans le domaine liturgique, exégétique, théologique, qui peuvent être faites à ce moment-là. Il ne demande pas du tout les archives, ça s'est attesté par tous les historiens qui peuvent avoir au papier. Il ne demande pas consultation, d'ailleurs. La Curie romaine va avoir inventé ex nihilo, alors peut-être qu'après, ça intéresse des problèmes comme le règlement conciliaire de Vatican, qui est repris. Mais c'est une lecture après la décision. Et d'ailleurs, on voit qu'on procrastine, parce qu'il s'écoule quand même 5 mois, entre le 25 janvier 59 et la lettre 18 juin, je crois, si je ne m'abuse pas, du cas de Tardini 59, avant qu'on mette en œuvre une procédure de consultation. Et donc, c'est une inspiration qui, fortement, passe par l'idée qui lui vient après, que Vatican n'est pas un concile complet. Mais il faut dire aussi quand même que Vatican a une mauvaise réputation. C'est Vatican est davantage considéré comme le concile de l'infaillibilité, qui, vous savez, a fait grand problème après. Seul Bismarck, de façon étonnante, a trouvé que c'était quelque chose qui était très important, parce que ça permettait de maintenir la papauté en situation d'arbitrage. Ce qui fut fait. La papauté va retrouver son assise mondiale par l'arbitrage sur les îles Carolines, et puis en 62,
à Cuba,
alors que le concile vient d'à peine de siéger, et le pape va intervenir, et beaucoup plus qu'on le dit, à la demande des deux parties, les Américains et les Soviétiques, pour que l'un ni l'autre recule dans la dérision, et surtout les Soviétiques, pour les obliger à faire reculer dans le bateau plus que prévu, quoi qu'ils étaient moins prêts qu'on ne le disait. Donc, il assume un coup double. Il fait figure de grand pape, parce qu'on se dit, voilà un homme qui va épousseter une chrétienté sous un régime autoritaire et surtout archaïsant plutôt qu'autoritaire, autoritaire certainement.
Qu'incarnait Pie XII, au fond, la monarchie pontificale.
Oui, Pie XII avait un mot fameux, vous savez, quand Maglione est mort, il n'a pas nommé sénateur d'État, il a dit « je ne veux pas de collaborateurs, je ne veux que des exécutants ». Donc il gouvernait la Curie seul, il la connaissait par cœur, c'est-à-dire. Ce qui n'est pas le cas Jean XXIII. Jean XXIII ne connaît pas la Curie romaine. Et d'ailleurs, il sera d'une certaine façon, ahuri par l'autorité, ahuri, entre guillemets, comme on dit maintenant, par l'autorité du préfet pour la congrégation de l'index, qui gérera la congrégation par la doctrine de la foi, le cardinal Alfredo Taviani, qui va quand même causer un sérieux problème au concile. D'autre part, il n'envisage qu'une seule question. Il pense qu'en 3-4 mois, l'Église va percevoir avec 2500 personnes, des experts, puis un peu plus tard des observateurs, une façon, je dirais, de faire le ménage, j'insiste, dans tout ce qu'il y a de poussiéreux, de passer le plumeau, de remettre en avant des livres qui ont été négligés, de faire des transformations, évidemment, comme c'est un concile pastoral, je crois, de supprimer l'index, en tout cas de l'adoucir, etc. L'avantage pastoral, créer un système de communication meilleur, qui d'ailleurs sera le premier schéma qui sera examiné et voté par les premiers conciliers en 1963. Voilà, avec celui sur la liturgie. Donc je crois qu'il y a ça, j'exagère un peu le 13, je force, mais cette solitude de Jean 23, qui devient un pape populaire, parce qu'au fond, il se dit, mais j'ai 3-4 ans de règne, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'ailleurs le même problème qu'il posera Jean-Paul Ier.
Si Clavinin, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au Concile Vatican II. Je reçois Philippe Clavinin, membre de l'Institut et spécialiste donc de l'histoire ecclésiastique contemporaine. Alors, nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée qu'il y avait une volonté véritablement de renouvellement. Est-ce qu'on parlait déjà d'aggiornamento? Est-ce un terme qui apparaît rapidement ou bien l'usage en sera-t-il postérieur?
Ça apparaît avec le concis, c'est un mot que j'utilise communément dans la langue italienne.
Est-ce que ce n'est pas un mot, j'allais dire, si vous me permettez cet anglicisme, marketing, un peu comme la perestroïka future de Gorbatchev?
Vous avez tout à fait raison, c'est un mot qui était dans la langue commune, que Jean XXIII sacralise, je fais sacraliser, et c'est-à-dire ensuite, à cause de sa diffusion par le concis, il va être à nouveau laïcisé. Donc il fait ce périple, qui fait que mot assez commun, adjornar et mettre à jour, tournamento, mise à jour, comme on dit récemment pour une bibliothèque. Il le sacralise, adjornamento, c'est pourquoi? Parce qu'il veut éviter le mot réforme. Il peut y avoir de réforme ni de contre-réforme. Donc, or, c'est un mot valise.
Ça contient un nombre de choses extraordinaires, puisque ça contient toutes les possibilités et toutes les impossibilités. C'est un mot valise. Et ça devient un mot qui masque tout, en fait, qui rend global toutes les possibilités sous lesquelles vont se définir les 72 schémas qui vont tester à l'initiative des bureaux romains, c'est en fait des dicastères, soyons clairs, des dicastères. Bon. Et qui fait que on attend tout, et je crois que c'est une des choses que l'on peut reprocher à ce mot, qui a été forgé par la suite romaine de l'entourage du pape, c'est qu'il a suscité trop d'espoir. C'est-à-dire que le programme du concile a été défini par adjornamento avant qu'il soit véritablement, je dirais, articulé sur un axe, c'est celui qui sera donné le 2 décembre 1962 par le cardinal Montini et le cardinal Svenas, qui parleront de l'axe ad intra ad extra. Alors, un des problèmes qu'on rencontrera ultérieurement, et qui est un problème qu'on rencontre toujours, et qui est une des causes de la crise actuelle du Saint-Siège, c'est que, notamment, dans le domaine de la théologie morale, il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens attendent quoi? Une situation où l'Église est en train d'être confrontée à la montée d'un individualisme méthodologique, où je dirais que, petit à petit, pas comme c'est maintenant, les gens découvrent, au-delà de la personne, l'individu. Bon. Et que, je dirais, il y a déjà un besoin de liberté, c'est pour ça qu'il ira jusqu'à l'hédonisme, ultérieurement, comme maintenant. Les gens attendent des solutions pratiques. Pas seulement qu'on leur dise qu'il faut aller à la messe tous les dimanches, mais aussi qu'on leur dise, écoutez, voilà, votre vie personnelle, votre vie privée en couple, seul, avec des enfants, l'éducation chrétienne, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Et notamment, ça, c'est le grand problème qui commence à préoccuper une société qui jouit de ses libertés grâce à la science, c'est le problème du contrôle des naissances. Dans un monde qui, après la Seconde Guerre mondiale, découvre cette liberté de la femme. Et ce sera le grand tort de Paul VI, qui est un domaine rare par ailleurs, de réserver le chapitre sur le mariage dans le schéma 13, la constitution Gaudium et Spes, au sein de l'encyclique de juillet 1968. Mais c'est là que je dirais, vient se nicher le diable, qui est souvent dans les détails. C'est-à-dire d'un grand concile, si je veux, pastoral, par conséquent appuyé sur une ecclésiologie, une façon de regarder toute l'Église dans son histoire sur 2000 ans, en oubliant trop qu'il y a, je dirais, une tradition vétérotestamentaire et néo-testamentaire, et qu'il y a l'enseignement des papes, qui d'ailleurs est trop présent dans les textes préparés par la Cour romaine. On a l'impression que ce sont les papes qui ont préparé le concile, et non pas l'Église qui est pour le concile. Et donc tout ceci va créer une ambiguïté, qui va faire que les feux vont éclater sous les pas du concile, des pères conciliaires tout le temps. Et à commencer par le problème de la révélation, qui est un vrai épineux auquel personne n'a jamais rien compris, mais qui met le pape en minorité. Dans votre propos, vous dites bien, adjornamento ne veut pas dire réforme.
Non.
Or, la plupart des gens considèrent le concile Vatican II comme un concile réformateur.
Mais ce n'est pas le cas, c'est pas un concile réformateur, c'est un concile innovateur, mais c'est pas un concile réformateur. C'est ce qui est le grand génie du Saint-Siège, comme du Vatican, en fait, du Saint-Siège, par conséquent, du gouvernement central de l'Église, à travers la personne du pape et son gouvernement. C'est qu'on abat un mur, et avec les briques, on refait un autre mur, mais on ne les mettant pas de la même façon. Bon. C'est-à-dire que c'est le même matériau, mais on dispose autrement. Voilà. Alors donc...
Et était-ce une question de pédagogie, alors, finalement?
Le concile a été, si vous voulez, trop rapidement préparé, soyons clairs, c'est ma thèse, c'est un concile presque impromptu, même s'il a eu 2 ans et demi de préparation, presque impromptu. C'est un concile qui a été finalement conçu comme étant l'œuvre de toute la chrétienté, y compris les religions non chrétiennes comme observateurs, le cas échéant à travers certaines personnes, comme étant simplement, je dirais, une réunion à Rome qui irait assez vite par consensus. La répartie de la vocation de l'Esprit Saint le 25 janvier, c'est que l'Esprit Saint devait aussi conduire le concile dans le temps record, qui était la riposte de l'inspiration. Ça ne s'est pas fait, parce que là, pour le coup, Jean XXIII a découvert qu'il y avait une sorte de vie parlementaire au concile, qui d'ailleurs était une vie, effectivement, calquée sur le modèle des démocraties parlementaires. Vous vous rappelez aussi les grands débats qui ont eu lieu dans d'autres conciles, y compris les conciles de la France, y compris Jérusalem à Nicée. Voilà. Mais il n'y a pas de grand débat théologique au Vatican II. La papauté est installée. Il n'y a pas de problème de savoir si le Christ est uniquement homme ou étant de nature. Il n'y a pas de problème de savoir que représente le Saint-Esprit par rapport au Dieu et à son Fils.
Oui, on ne remet pas en cause le Concile de Nicée.
Non, Nicée ni cathédrale, c'est-à-dire que ce sont des choses acquises. Bon, ni même de certaines propositions de Trente. Si, le célibat des prêtres, déjà. Oui, bien sûr. Donc, clairement, le mariage des prêtres. Si, le statut de la femme, déjà. Mais aussi des problèmes très graves, comme la guerre atomique, comme la paix, comme l'athéisme, et le rapport entre l'athéisme et le marxisme. Arrive sur le bureau du concile des choses qui n'étaient pas prévues. Au fur et à mesure que se déroule le concile, on fait, si j'ose dire, des niches théologiques, pour employer l'expression dérivée de niches fiscales. On fait des niches dans lesquelles on tasse tous les problèmes, la niche ecclésiologique, disons. La plus redoutable sera schéma 13, les rapports de l'Église avec le monde de ce temps, qui est un antisyllabus, 1864. On met tout ce qui concerne la vie moderne, sauf la sécurité, sur laquelle les pères sont absolument incapables de se prononcer, de toute façon. Ils n'ont pas envie non plus. Et après, pour le reste, il y a de très très grands schémas. Sur la révélation, sur l'Église, sur le dialogue interreligieux, sur la liturgie. Et la liturgie, quand vous relisez le texte, il est dit qu'elle est faite, le schéma, l'adaptation de la liturgie, donc ce que vous voulez qu'on voit actuellement, donc encore la messe à saint fidèle, etc., autant de choses. Il est laissé aux conférences épiscopales, quand elles existent, ce n'est pas encore le cas de la France, il est laissé aux Églises nationales le soin de voir comment ça correspond le mieux, ce schéma, aux aspirations des différentes cultures des pays. La France va sauter sur la constitution de la liturgie comme le diable sur un mouton, parce que dès 64, elle est votée en 63, dès 64, elle est appliquée. C'est à ce moment-là que, à l'essence de l'Italie, où la constitution est adoptée très lentement, on continue à chanter le grégorien, on continue à avoir une liturgie, le dos face aux fidèles, on fait une homélie de face, bon, et très lentement, on déplace. Bon, la France se retrouve avec un clergé qui jette sa soutane aux orties, qu'on comprend, parce que pour faire du vélo, c'est pas commode. Mais qui, dans le camp, ignore le matériel liturgique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ciboires, les ostensoirs, etc. Une sorte de dépouillement qui va vers une sorte de nidité franciscaine, si vous voulez, mais qui ne convient pas du tout brutalement aux fidèles. Et la France, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu ensuite le schisme de Fèvre. Parce qu'il y avait une tradition qui faisait partie du mystère de la foi. Bon. Mais nous avons été en pointe, comme toujours, dès cette époque. Et il y a trop d'attitudes qui sont laissées, si vous voulez. Il faut bien voir que l'œuvre conciliaire, 16 documents conciliaires, qui n'ont pas tous la même valeur, il y a des constitutions, il y a des décrets, des déclarations, c'est pas pareil, hein. Bon. Mais ça représente une œuvre colossale qui a été très peu lue, très peu lue, c'est le clergé d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie qui le lira. Et au synode de 1985, qui est le synode du 20e anniversaire de la fin de Vatican II, le 8 décembre 1985, 65 pour le concile. Moi j'ai entendu, j'étais en tant que journaliste, j'ai obtenu une carte de presse de complaisance, c'est un évêque africain, j'ai plus du Sénégal, je crois, qui a dit, mais Vatican II, pour nous, c'est Nicée. C'est bientôt révélateur.
Alors, il y a un point, précisément, qui est assez intéressant, qui est un débat historiographique sur la préparation, en soi, du concile. On a souvent tendance à opposer, d'un côté, la curie, de l'autre, les évêques. Il y a le fameux jour de l'ouverture du concile, où les cardinaux Liénard de Lille, Joseph Springs de Cologne, dont l'abbé Ratzinger est le secrétaire, qui conteste les schémas préparatoires de la curie. Mais est-ce que ce travail de la curie n'a pas été fait sur le fondement d'une enquête à travers le monde, d'une perception auprès des évêques? J'y pense parce que vous dites bien que, au fond, le résultat du concile, le texte du concile qui vient d'être édité aux éditions Arthez, le texte du concile a été lu par les Africains, par les Américains du Sud, etc. Est-ce que tous ces évêques qui sont au concile, eh bien, ont participé en amont à ce concile en y apportant leur rite?
Absolument, ça s'appelle les votats. Ils ont d'ailleurs publié par l'Église Vaticane. Mais la question fondamentale, c'est de trouver, pour les évêques qui arrivent à Rome avant le 11 octobre, donc, qui sont d'ailleurs stupéfaits, parce qu'il faut bien voir qu'il y a dans le concile, il y a une atmosphère qu'on a totalement oubliée, qui est la retransmission par Eurovision, le 11 octobre, le pape en sédiage sénatorial, qui arrive derrière avec les fabelles comme autrefois, le tout est Petrus, etc., les minagités, Rome, tout entier qui défie la nuit, etc., avec au flambeau, enfin, des très grandes allégresses chrétiennes qu'incarne la capacité imaginaire des Romains. Et ils vont découvrir ce que sont, au fond, leurs vœux, qui ont été synthétisés par les bureaux romains, comme on dit, c'est en fait par l'action romaine. Et ils sont stupéfaits. Donc, c'est pas les schémas, pardonnez-moi, qui sont discutés, c'est les élections aux commissions conciliaires. Parce que, on leur demande de voter pour faire des commissions conciliaires qui suffiront aux commissions préconciliaires. Les commissions préconciliaires, auprès desquels ont d'ailleurs été accrédités, sollicités, sont venus souvent des évêques du monde entier. Enfin, c'est un travail qui stipulait que c'est plutôt le noyau d'Europe que celui des nations ou des États plus lointains, bon, des continents même. ça a été broyé, mâché, présenté de façon où ils ne se reconnaissent pas. Et dans les commissions conciliaires, on leur a proposé une liste où ils voient qu'en fait, il s'agit de reconduire les commissions préconciliaires. Mutatis mutandis. Il se trouve à la position d'un Premier ministre, prenez le cas actuel, qui n'aurait pas le loisir de pouvoir changer son gouvernement après des élections législatives. Vous voyez ce que je veux dire, je n'en dis pas plus. Eux, ils veulent changer l'orientation donnée par le gouvernement. Ils ne veulent pas savoir ce que le gouvernement de l'Église, pour le coup c'est un mot juste, a fait des votats qu'ils ont exprimés pendant près d'un an, durant des consultations. Il y a un jeune futur cardinal qui va faire ça à sa copie, c'est mon cher Wotila, qui va consulter, je dirais, les fidèles, dans les assemblées fidèles, etc. Bon, c'est vrai aussi dans certaines régions en France, alors pour Bretagne, etc. Bon. N'est-ce pas? Alors, j'ai dit, voilà, on remet des commissions conciliaires, ce qui était, nous, on veut des commissions conciliaires. D'où l'incident Liénard, sur lequel on a glosé. Moi, j'ai entendu qu'il y a Liénard, plus tard, on en parle, il y a 30 versions. Et là encore, on est dans le domaine de l'inspiration. Liénard dit, j'étais inspiré. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque. Et il dit, oui, enfin, vous avez dit, de toute façon, bon. Mais en fait, c'était un long travail minutieux, au cours duquel, d'ailleurs, tout se fait par téléphone, en une nuit, et déjà, le téléphone devient un danger pour les historiens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose, on est obligé de se fier aux relais divers qui ont poussé dans le cardinal Liénard un texte dont il dit qu'on lui met dans la poche, dont d'autres disent qu'il a été inventé par lui, on parle en latin, on constitue aussi par M. Liénard, est un homme certainement très érudit, savant. Et là, il dit non, nous demandons à nous consulter entre nous. Et donc, les commissions, les listes préparées pour les élections du surlendemain ne sont pas les listes qui sont données par la jugée romaine. Elles passent. Mais Jean 23 s'aperçoit qu'elles ne sont pas exactement telles qu'elles étaient souhaitées. Donc, un certain nombre de personnes ont disparu à la trappe. Donc, que fait Jean 23, fort du règlement qui lui autorise, il est complète. Et on assiste donc à une première confrontation entre l'autorité pontificale et l'affirmation conciliaire. Qui fait grand bruit, pourquoi? Parce que j'essaie d'expliquer aussi dans mon prochain livre, c'est que le grand mal pour Vatican II, c'est l'opinion publique. Vatican II vit sous un médiatique dès le 11 octobre. Dès le 11 octobre. Le jour où le cortège rentre dans le Saint-Pierre, l'œil médiatique rentre avec lui. Donc il ne sera pas quitté d'un jour. D'ailleurs, le Vatican sera obligé de créer un bureau de presse qui sera embryonnaire de la première session, et puis qui se développera avec le temps, avec les secteurs linguistiques. Il faut bien voir que la fin proposée de la première session est un échec pour le pape. Parce que c'est à partir du moment qu'il reconnaît les blocages qui interviennent sur la révélation, sur le dialogue interreligieux, etc., qu'il décide qu'il va y avoir un travail intermédiaire. Et qu'il n'est pas le concile d'une session, mais le concile de plusieurs sessions. Sur lequel il lève en plus une hypothèse. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions ou une seconde session? Est-ce qu'il y aura une troisième session ou simplement et une quatrième session, ou simplement une deuxième session. Et c'est là une rupture totale dans la mise en œuvre de ces aspirations du 25 janvier. C'est-à-dire le pape se trouve contraint d'ajourner le concile pour favoriser la discussion, en tenir compte qu'il y a des commissions mixtes, des secrétariats, toute une paperasserie épouvantable d'échanges, à l'époque il n'y a pas peine de fax, je crois qu'il n'y a pas de fax, le téléphone, la poste, etc. Donc le concile est sans arrêt menacé. Et l'opinion publique, c'est en fait la presse, les médias, je suis désolé pour vous, hein, la presse est aux aguets du moindre faux pas, de ma discussion, etc. Je me souviens qu'à la quatrième session, à ce moment-là, j'étais en poste chez l'ambassadeur Brouillard, l'ambassadeur de France, pas de Saint-Siège. Le fait que mon silence de bille, avec des agrès, je crois, est invoqué Saint Matthieu 7-7 pour dire que le conjoint spolié dans l'adultère avait le droit de divorcer, c'est une émeute. Toute la presse a dit, voilà, l'Église latine va être obligée, elle aussi, de se mettre à ça. Alors, ce concile a donc s'émietté, du moins s'allonger. Et à ce moment-là, il y a eu un concile, je vais être trop prompt, et qui était destiné à être très court, et en plus, il y a un concile trop prompt qui va s'allonger et qui devient un concile aléatoire.
Alors, que va faire Paul VI précisément face à cette longueur? C'est ce que nous allons voir, s'il peut bien, après cette dernière pause.
Les sculptures de Brigitte Servièvre entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Servièvre dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au Concile Vatican II. Je reçois Philippe Levillain, membre de l'Institut et qui prépare un livre qui paraîtra très prochainement, donc sur le Concile, un livre qui paraîtra aux éditions Perrin. Alors, le 3 juin 1963, mort de Jean XXIII, le nouveau pape qui doit être élu doit naturellement, obligatoirement, être lié au débat sur le concile. Celui qui n'a pas d'avis sur le concile ne peut pas être élu. C'est absolument impossible. Quelle était la place occupée par Mgr Montini sur Paul VI?
Alors, Mgr Montini est un personnage étonnant, puisqu'il a fait toute sa carrière à la curie, qu'il a eu une enfance fragile, une éducation très protégée, qu'il appartient aux patriciens de Brescia, c'est une région très opulente, au sud de Milan, donc il est lombard, et il fait une carrière fulgurante et statique à la curie, puisqu'il est envoyé à un moment donné à la légation de Varsovie, et il ne peut pas y rester pour des raisons de santé. Alors, il va jusqu'au poste de la fonction de pro-secrétaire d'État de Pie XII. Intéressant est le fait qu'il est disgracié par Pie XII en 1953, parce que, non pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons, je dirais, de politique internationale, Mgr Montini pense qu'il faut, surtout la déstabilisation lui donnera raison, conduire une politique d'ouverture à l'Est, de hausse politique, ce qui n'est pas du tout le cas de Pie XII, qui est atlantiste. Donc il est envoyé à Milan, et d'une certaine façon, pro-mauviature, uta-mauviature, mais là, à Milan, c'est le siège de Saint-Ambroise, il va faire carrière, d'une certaine façon fulgurante, c'est un très grand pasteur, qui a le sens social, un sens inné de la foi collective, et à Vatican II, où il est créé cardinal par le consistoire de novembre, par Jean XXIII, tient le consistoire pour lui. Et Montini prend donc le monastique de Paul VI à cause de Paul, pas Pérégrin. Il y a quelques Pauls un peu plus douteux dans la succession pontificale, peu importe. Il est élu pour ça, vous avez raison. Mais, je veux dire, canoniquement, le nouveau pape n'est pas obligé. Le consul est suspendu à la mort de Jean XXIII, comme toutes les charges curiales sont suspendues. Et il est élu pour ça. Pourquoi? À cause du fameux discours, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, du 2 décembre 1962, au cours duquel il a défini avec Senas l'axe du concile. Il y a donc chez lui une capacité de synthèse et une proposition, je dirais, à la fois de réflexion sur l'interne et d'ouverture à l'externe, ce qu'on appelle la révolution copernicienne, qui fait que l'Église ne dit plus au monde « Je vais vous dire qui je suis pour que vous veniez vers moi », elle dit au monde « Dites-moi qui vous êtes pour que je puisse venir vers vous ». Et c'est la révolution copernicienne. Et Montini est un des artisans de cette révolution copernicienne avec le primat de Belgique, Mgr Senas, qui d'ailleurs était son meilleur ami et qui sera à côté de lui au moment où Cardinal Montini apparaîtra sous le nomastique de Paul VI à la loggia des bénédictions. Alors, Montini va tout de suite confirmer le concile, va faire un nouveau règlement. L'obsession du Cardinal Montini, donc de Paul VI, est d'avoir un concile consensuel. Donc, il ne peut pas y avoir de majorité, de minorité. Il y avait un évêque dans le concile qui votait toujours contre, parce qu'il décide nous sommes dans une situation de pays totalitaire, mais il votait contre par principe. Bon. Il y a quand même de grands votes contre, hein, bon. On aura peut-être l'occasion de reparler ultérieurement, de grands votes contre, de grands votes négatifs, bon. Mais il y a un concile consensuel. C'est une des raisons pour lesquelles le concile dure. Et notamment, il va durer sur le dialogue interreligieux et sur le schéma 13, dont on a déjà abondamment parlé. Et donc, après la deuxième session, 63, donc septembre-décembre 63, trois mois toujours, il y a vraiment une fatigue du concile. Les pères conciliaires trouvent que trois mois hors de leur diocèse, c'est beaucoup. Il y a une angoisse du concile, parce que les pères conciliaires commencent à dire, mais on nous demande des choses auxquelles nous ne pouvons pas répondre, notamment dans le domaine de la morale. Et d'autre part, il n'y a pas de coup. Et Montigny hésite à convoquer une troisième session, ce que peu de gens savent, mais que Jan Wouters, l'historien belge, a découvert il y a maintenant une dizaine d'années, et peu de gens le répètent. Montigny hésite à convoquer une troisième session, il le fait. Mais à la troisième session, il dit que ce sera la dernière. Et donc il met le concile qui était, je dirais, improvisé dans l'urgence. C'est ce laps de temps dans lequel se découle le Vatican II, c'est entre le 25 janvier 59, hypothèse, et juin 1964, certitude que c'est la fin. Donc le temps justement est ramassé. Et les pères conciliaires se trouvent devant l'urgence. Donc certains textes vont pâtir de ça. Parce qu'il faut finalement en finir. Ils ne sont pas contre le fait qu'on en finisse. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la figure du souverain pontife a pris une ampleur nouvelle. Jean-Paul II est l'homme des médias, effectivement. Il descend sur ses biens dictatoriaux, il aborde la foule, il est populaire, ça viendra ensuite, il meurt en apothéose, ce sera le bon pape Jean. Montini va redonner la charge pontificale, un lustre doctrinal et magistral extraordinaire, les voyages. Montini, Paul VI, se trouve quasiment en concurrence constante avec le concile. Il fait le voyage en Terre Sainte pendant le concile. Et en 65, Paul VI, alors qu'on débat pour le schéma Gaudium et Spes, donc le fameux schéma 13, du problème de la guerre, de la paix, de la tension internationale, etc., Montini va à l'ONU au début d'octobre, pendant un discours qui lui vaut même les grâces de Gromyko qui vient féliciter. Et jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, jamais plus. avec cette phrase fameuse qui a été rédigée par le canal Poupard, en l'occurrence, au moment de prendre la parole dans cette assemblée, etc., voilà. C'est lui qui incarne, si je veux dire, le concile, c'est l'église concilière, mais bientôt post-concilière, dans une expression très forte, qui fait que Montaigne rénove la charte pontificale, celle de Vicaire du Christ. Et que c'est sur lui que vont retomber toutes les conséquences de la crise, parce que les insuffisances de Vatican II, qui sont réelles, les grandeurs de Vatican II, qui sont trop grandes, je parle des grands schémas doctrinaux, vont se trouver un peu télescopés face à ce qu'on appelle les interprétations du Concile, la mise en pratique du Concile, la naissance du conférence épiscopale, la question du catéchisme, la question de la vocation religieuse, la question des religieuses, la question du dialogue avec les musulmans, les orthodoxes, les anglicans, la primauté, etc. C'est le pape qui est appelé à régler ça tout seul, et il n'est pas contre. On crée des commissions post-conciliaires, il n'en tient pas compte. On crée une commission pour régler le problème du mariage, qui d'ailleurs, le père Marcellet qui est encore en vie pour en témoigner, mais il est très âgé, est très très négatif sur la question de savoir s'il faut prendre une encyclique. C'est plutôt dans une perspective, je dirais, de reconnaissance de sorte de loi naturelle, je dirais, de la vie intime de la femme et des rapports avec l'homme. Reconnu maintenant par le cardinal Scotier, ce qui n'est pas rien, qui était conseiller théologique de Jean-Paul II. Bon, et maintenant, dans les années 90-2000, enfin même en 2001, voilà. Mmh. Et donc d'ailleurs, cette fameuse encyclique, c'est la foudre. Parce que cette encyclique est une très belle encyclique qui est sur le modèle des cantiques.
Humanité.
Humanité. Mmh. Va apparaître en 68, vous vous rendez compte, juillet 68. Au milieu de la libération, au milieu du mouvement aux États-Unis, en France, etc., bon, in the White, etc., tout ce que les rassemblements, comme une encyclique complètement réactionnaire. Qui ne tient pas compte de ce que le corps aspire à faire sans tenir compte, lui, des enseignements de l'Église. C'est à ce moment-là qu'il y a des hémorragies constantes et dures du clergé, des séminaires, même de l'enfance pastorale. Le voisin supérieur du séminaire français de Rome disait que la métamorphose du séminaire français de Rome, c'est après 68.
Mmh. Et à vous entendre, un concile mal préparé, un concile qui traite les questions par niche, c'est votre expression. Il y a eu 3 sessions, on dit ça sera la dernière, finalement il y a une 4e session. On se dit, mais enfin, quel manque d'organisation.
Non, on peut dire que c'est un concile qui a promis trop pour ce qu'il a promis trop pour ce qu'il a donné, et qu'il n'a pas donné assez pour ce qu'il a promis, si vous voulez dire que voilà. Il a levé de grandes espérances. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le concile a expliqué au monde que l'Église pouvait parler au monde moderne, et que le concile balbutie, sauf les grands textes, et qu'il y a très grand renouveau dans le domaine, je dirais, aussi bien de l'ecclésiologie que dans le domaine de l'exégèse, bon, indiscutablement. Le problème, c'est que ce sont des débats enfouis, parce qu'il y a une opinion publique qui est avide de compréhension, je dirais, il y a des subtilités de l'ordre de la théologie qui échappent, bon, et qu'on ne voit que la face visible de l'Église, la pratique, la pastorale. Le mot pastoral, qui a été prononcé, je veux dire que ça fait un concile doctrinal. Pas doctrinal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de condamnation. Bon, il n'y a pas de condamnation. La seule qui a été, à un moment donné, un des enjeux du concile, c'est la condamnation du marxisme. Qui n'a pas été faite, et du communisme surtout,
qui, était... qui avait été faite par Pillon.
Voilà, non mais par, oui, par Pillon, et c'est le jeu par Pillon aussi. Mais c'est le seul moment où il y a eu une très lourde confrontation avec le cardinal, enfin, le cardinal Voltaire, à ce moment-là, il a intervenu très fortement.
Mm.
Mais, je suis sévère pour le concile, peut-être 50 ans après, si le concile n'avait pas eu lieu, l'Église serait en grand mal, donc en grand dommage. Mais si aujourd'hui, je crois qu'elle est à nouveau, mais ça c'est au niveau du Saint-Siège.
Mais il y a une révolution, là encore j'utilise votre expression, une révolution copernicienne, hein. Dites-moi qui vous êtes pour que je puisse aller vers vous. Est-ce que ce n'est pas, au fond, le risque de rentrer dans une forme de crise identitaire que Benoît XVI tente, je me souviens très bien d'un colloque organisé par vous, un an après l'élection de Benoît XVI, où un de vos anciens élèves, Gilles Ferragu, disait que Benoît XVI, on avait l'impression qu'il recentrait en quelque sorte l'Église, et qu'il souhaitait resserrer l'identité et compter ses troupes, plutôt que d'aller à droite et à gauche, donc de recentrer afin d'affermir dans la foi, c'était d'ailleurs le thème des JMJ à Madrid l'an dernier, donc pour, en quelque sorte, revaloriser une identité qui, en plus, est mise à mal par tous les scandales, le scandale de la pédophilie, etc.
Je crois que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on voit que dans le jeune clergé, il y a un intransigeantisme qui n'est pas politique, mais qui est pastoral et identitaire et ecclésiologique, si vous voulez. L'idée de Benoît XVI, qui est exprimée dans un livre que je n'arrive pas à retrouver, c'est plus une grecque, celle grecque, petit troupeau, mes troupeaux, c'est de voir des chrétiens fervents, convaincants, actifs, avec vraiment des gens qui mènent une vie chrétienne. Ce n'est quand même pas le cas, selon la sociologie religieuse de Gabriel Lebras, vous savez, il y avait les pascalisants, les pratiquants réguliers, les pratiquants pour les grandes fêtes, les pascalisants, etc. Aujourd'hui, cette typologie de Gabriel Lebras ne tient pas la route, parce que Il y a très peu de pratiquants réguliers, des messalisants si vous voulez, enfin bref. Je crois qu'il y a un déchirement de la pratique. Et regardez les Égyptiens sont quand même, je parle en Europe, hein, je veux dire, pas en Italie, même en Italie, ils sont très féminisés. C'est la thèse, c'est la thèse. Il faut que vraiment, ce soit des chrétiens convaincus, des chrétiens qui ont un génie à éclairer la route par des textes de grande subtilité, et en même temps très lisible, parce que Benoît XVI a une très grande capacité de clarté, quand on l'entend et quand il écrit. Une chose me frappe, si j'ai encore quelques secondes pour vous le dire, j'ai assisté à l'audience qui a été donnée, voilà maintenant, 4-5 ans, 4-2018, si je l'ai vu, par Benoît XVI aux membres de l'Institut Paul VI, à Brescia, qui tient très haut la mémoire de ce pape. Et la première partie du discours qu'il a adressé aux membres était un discours qui a été rédigé par la secrétaire d'État, donc c'était un discours, je dirais, assez banal. La seconde partie, j'ai eu le sentiment que le pape, en faisant l'éloge de Paul VI, se regardait dans un miroir, et qu'il se voyait à travers Paul VI comme Paul VI. Avec ce que Paul VI a ressenti à la fin de sa vie, à partir des années 70, je dirais, cet effet de martyr, quelqu'un qui supporte la crise entière de la chrétienté, je dis bien, qui en même temps fait des efforts qui ne sont pas reconnus. Et d'une certaine façon, je pense que dans la situation actuelle, dans la crise qui a été générée par Luc de Nuzzi sur les papiers secrets du Vatican, de Benoît, c'est assez pire. Il y a cette affaire de Suné, le martyr d'une église souffrante, avec une chose très intéressante dans cette affaire, parce que la semaine sainte 2011, jamais les accusations de faiblesse portées contre Benoît XVI sur la pédophilie du clergé n'ont été aussi violentes, notamment après son homélie de Pâques. Le livre de Nuzzi paraît 15 jours avant la Pentecôte, et je dirais qu'il pollue les fêtes de la Pentecôte, et le scandale éclate. Il y a une espèce de combat, je dirais, même vu de l'extérieur, entre force spirituelle et force matérielle, entre, je dirais, les médias et Saint-Siège, la chrétienté, qui explique aussi que la jeune génération des prêtres est très rude vis-à-vis de tous ceux qui sont des mous, des tièdes, etc. Et très rude vis-à-vis aussi des médias, des caricatures. Je dirais que les médias sont très importants, je dirais, de fait que pour véhiculer des discussions. Parce que toute la situation sans dialogue, c'est une institution absolument broyante et terroriste. Mais arrivé à ce point-là, je dirais que l'Église est à l'heure actuelle, enfin, l'Église en général, et les sociétés en particulier, broyée par les médias, ce qui est sans réponse. Il y a toujours ce côté sacré que l'on défend. Il y a par ailleurs, je dirais, cette volonté de garder la réserve. On ne peut pas tout dire. Il n'est pas normal de dénoncer effectivement un prêtre pédophile. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que le pape aura fait beaucoup de réformes. Dans celle-là, il aura dit, oui, un prêtre pédophile est victime du civil comme tout autre. Par conséquent, nous, de notre côté, ne réintégrons pas dans l'Église. Il ne peut pas avoir de charge dans l'Église. C'est une des raisons de la TILIX. Est-ce que ça la dispose parmi les Églises romaines?
Alors, je connais mal Paul VI, mais est-ce que Benoît XVI n'apparaît pas davantage comme un pape de la confrontation? Contrairement à tout ce que peuvent dire les médias, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, j'en suis sûr, même dans une interview de La Croix il y a plusieurs jours, où vous disiez qu'il ne s'agit pas d'opposer les deux personnages, mais à la différence de Jean-Paul II, Benoît XVI a voulu prendre à bras le corps ces problèmes.
Alors, ça c'est un fait, que c'est une théorie que j'ai développée, à savoir que la raison pour laquelle Benoît XVI réforme et a proposé cet ensemble de réformes qui ont créé ce scandale, c'est qu'il a été retardé par les béatifications de Jean-Paul II. Parce qu'il ne pouvait pas dévoiler, je dirais, la mauvaise gouvernance qui est réelle, Jean-Paul II, qui a laissé les problèmes de côté, la pédophilie, les heures du Christ, l'IOR, tout ce que vous voulez. Parce que le pape avait un charisme personnel, c'est-à-dire qu'il était quasiment, je dirais, illuminé par la présence qui était celle de sa foi, qui, telle qu'elle s'exprimait, était rayonnante, c'est-à-dire diffusait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que, ce qu'on sait pas, ce qu'on sait peu, c'est que la béatification de Jean-Paul II a rencontré maints obstacles. Que le cardinal Sodano, son secrétaire d'État, a refusé de témoigner. Que le cardinal Danès, archevêque de Malines, a dit que c'était trop tôt et précipité. Que le cardinal Martini, qui était donné comme étant un des challengers impossibles au demeurant de Ratzinger en 2005, a dit que Jean-Paul II était surtout un homme des médias, n'était pas vraiment un grand pasteur. Il faut savoir ça. Et que, à l'époque contemporaine, la guérison miraculeuse de Sœur Marie-Simon-Pierre, je crois que c'est son nom, il t'a paru étrange. C'est parce que j'ai le scepticisme contemporain, c'est des choses qui sont attestées médicalement, mais qui laissent quand même les gens un peu rêveurs, puisqu'elle intervient au bout d'une neuvaine, et que là, pour le coup, c'est un acte de foi. Bon, il n'y a rien de rationnel dans une guérison, de toute façon. Et que Benoît XVI est encombré par toutes les affaires que lui laisse Jean-Paul II, qu'il n'a pas traitées. Et d'ailleurs, il faut bien voir que ce n'est pas Jean-Paul II qui est béatifié, c'est Voltila. C'est Carole Voltila. De même que ce n'est pas Célestin V qui est béatifié à la fin du IIIe siècle, au début du XIVe, c'est Pietro di Morone. C'est l'homme, ce n'est pas le pape. Et Benoît XVI, d'ailleurs, dans un livre appelé La Communion, dit bien qu'il n'est pas, dans un texte assez dilué, très, très nuancé, il n'est pas pour la béatification et la canonisation du pape. Les papes sont saints, ils ne sont pas, tant pis pour eux. Mais il y a une présomption de sainteté. Et là, il a échappé, c'est-à-dire à la possibilité de résister, c'est un marathon inouï, parce que Jean-Paul II a été béatifié, Rutila a été béatifié en un temps beaucoup plus rapide que certains de Calcutta, parce qu'il y avait un problème, que j'ai expliqué l'autre jour, à savoir qu'il y avait concurrence entre une béatification laïque et une béatification religieuse. Jean-Paul II passait pour ça avant d'être béatifié, institutionnellement. Il y avait des jeux sur la télévision, dont certains d'ailleurs douteux, un jeu vidéo, on pouvait pousser le pape sur une petite languette pour qu'il décroche des prêtres pédophiles qui étaient pendus. C'était plus que scabreux, on est dans une presque quasi-pornographie, si vous voulez. Bon. Et donc le pape s'est rendu compte que la demande qui est faite par les focolari, le jour des obsèques des funérailles de Jean-Paul II, correspondait à une demande que l'Église devait honorer, et qu'il fallait qu'une sainteté d'Église fasse une sainteté qui est une sainteté laïcisée, et là je dirais profanée.
Bah écoutez, Philippe Levien, merci beaucoup. Le temps passe malheureusement trop vite, donc nous resterons sur cette image de Benoît XVI, pape de la confrontation. Nous nous retrouverons, Philippe Levien, à la rentrée, si vous le voulez bien, pour continuer cet échange, donc à la suite de la sortie de votre ouvrage qui interviendra, j'imagine, en octobre, le mois anniversaire du Concile.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci
et
à vous.
À très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour, une histoire. Thank you.